Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier module, le module 6 du cours MVA, tout savoir pour déployer votre application web dans le cloud Microsoft Azure. Donc je suis toujours Benjamin Talmar, je suis conseiller technologique Microsoft Azure chez Microsoft France. Donc dans ce dernier module, nous allons voir comment implémenter les bonnes pratiques dans une application cloud et en l'occurrence dans une application web déployée sur Microsoft Azure. Donc jusqu'à présent, nous avons vu les différentes technologies, les différents services qui vont vous être utiles sur Azure pour déployer une application web. On a beaucoup parlé d'Azure Website, on a parlé également d'Azure Virtual Machine, la capacité d'avoir des machines virtuelles dans Azure. Donc vraiment le pendant IaaS, Infrastructure as a Service, alors qu'Azure Website est plutôt du Platform as a Service. On a vu comment stocker des données, des fichiers, des données relationnelles ou des données plutôt en forme NoSQL. Et enfin, on a vu comment mettre en place des mécanismes un petit peu avancés, comme le cache distribué ou encore Traffic Manager qui permet de vous étendre à l'international et d'avoir des architectures résistantes à même des pannes de data center. Donc aujourd'hui, les bonnes pratiques, on va voir un certain nombre de choses. Le but n'est pas d'être exhaustif sur les bonnes pratiques, il y a des white papers, des livres blancs très conséquents à ce sujet-là. On va en voir un certain nombre qu'on va plus ou moins détailler, mais vous aurez comme ça un avant-goût de ce qu'il est très important de connaître quand on commence à être sérieux sur Azure, ou sur tout fournisseur de cloud finalement. Donc la première bonne pratique que je veux aborder, c'est le besoin d'automatiser le plus possible les interactions que vous allez avoir avec Microsoft Azure. Pourquoi automatiser? La première chose, c'est que vous allez pouvoir être reproductible. Imaginez, en tant que développeur, vous avez besoin de créer un environnement pour héberger votre application web pendant les étapes de développement. Vous avez envie de tester ce que vous avez fait en local. Mais plutôt que d'aller sur le portail, de créer une application web, d'aller créer un compte de stockage, d'aller créer une base de données, etc., automatiser toutes ces créations. Pourquoi? Puisque la semaine d'après, quand vous aurez besoin de recréer ce même environnement, ou alors que vous serez plutôt en pré-production, en staging, ou dans tout autre type d'environnement, mais vous allez pouvoir dupliquer très facilement ou recréer un environnement, vous allez pouvoir être reproductible à ce niveau-là. L'avantage aussi de le faire dès le début, dès les premières étapes d'un projet, c'est que vous allez pouvoir intégrer ça directement dans les processus du projet et même dans le contrôle de source du projet. Imaginez, vous avez telle version de votre application, elle pourra être associée à telle version du script de déploiement de l'environnement qui va héberger cette application. L'avantage également de faire ça, c'est que plutôt que d'effectuer des tâches manuelles, vous allez pouvoir utiliser les scripts de création que vous avez créés ou que d'autres personnes dans votre équipe ont créés et qui ont potentiellement tourné depuis le début du cycle de développement du projet. Donc quand on va arriver en production et qu'on a ces scripts de création d'environnement qui ont été testés, retestés à chaque étape du projet, c'est quand même plus rassurant que d'avoir à recréer tout un environnement de production à la main, avec les erreurs manuelles que ça pourrait engendrer. Donc ce qui est assez sympathique dans Azure, c'est que Azure lui-même est en dessous d'un certain nombre d'API qui vont vous permettre d'interagir avec Azure. Donc l'API principale, celle qui est le plus près du cœur d'Azure finalement, c'est une API REST, donc une API HTTP qui est accessible par n'importe quel type d'application ou d'environnement de scripting qui sait faire des appels HTTP, autant dire par un petit peu tout le monde. Donc l'avantage de cette API, c'est qu'on peut faire vraiment tout ce que vous pouvez faire avec Azure peut être fait via cette API là. Parfois, il y a même des choses qui ne sont pas encore dans le portail Azure, que ce soit le portail actuel ou le nouveau portail, mais qui sont disponibles via cette API. Au-dessus de cette API, pourquoi on a besoin de faire quelque chose au-dessus de cette API, c'est que manipuler des appels REST, des appels HTTP à chaque fois qu'on veut faire une opération simple, c'est pas forcément le plus pratique. Donc on a créé une API managée, en l'occurrence pour .NET, qui donne la capacité de manipuler tous les services Azure qui sont manipulables par l'API REST, mais en utilisant plutôt des classes .NET. C'est ce qu'on appelle le Microsoft Azure Management Library. Ce Microsoft Azure Management Library est lui-même au cœur d'Azure PowerShell. Donc Azure PowerShell, c'est la capacité de scripter toutes ces opérations avec un langage de script comme PowerShell, plutôt qu'un langage de développement comme .NET et C#. Donc si vous souhaitez effectuer des scripts plutôt que du code, et c'est d'ailleurs souvent ce qui est fait, vous pouvez utiliser Azure PowerShell qui utilise lui-même .NET et les management libraries pour .NET qui utilisent eux-mêmes les REST API d'Azure. Si jamais vous n'êtes pas du tout dans le monde .NET et pas du tout dans le monde Windows, vous avez également la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle Azure CLI pour Command Line Interface, qui est une ligne de commande cross-platform qui a été écrite en Node.js, donc en JavaScript pour information, et qui peut être utilisée n'importe où, que ce soit sur Windows bien sûr, mais sous Mac ou sous Linux également. Donc c'est vraiment le penchant de PowerShell qui vous permet d'attaquer les API REST sans faire du REST. Vous avez vu durant les derniers modules que, en plus du portail actuel, on a la preview d'un nouveau portail qui est accessible sur portail.azure.com, et j'ai déjà abordé le fait que ce nouveau portail vient avec une nouvelle notion qui est la notion de ressource groupe. Cette notion de ressource groupe, elle est très importante puisqu'elle permet d'arrêter d'organiser ces ressources de manière unitaire, mais plutôt de les regrouper en groupes de ressources qui vont être des regroupements logiques qui feront sens pour vous. Vous allez par exemple avoir un regroupement logique pour une application A, un regroupement logique, un ressource groupe pour une application B, ou peut-être pour l'environnement de développement de l'application A, l'environnement de production de l'application B. Vous allez gérer ces groupes de ressources comme vous le souhaitez, et ça vous permettra d'avoir une vue consolidée à la fois sur la facturation, à la fois sur les éléments techniques, sur la configuration, sur le monitoring, etc. Donc cette notion de ressource groupe, elle est très importante, et elle vient avec une autre notion, qui est la notion de template. On a la possibilité dans Azure de créer des templates de manière déclarative, ça va passer par des fichiers JSON, pour nous permettre de déclarer les ressources qui vont composer un ressource groupe. Donc imaginez que vous avez besoin d'un template pour pouvoir créer facilement un site web associé d'une base de données Azure SQL Database associée de deux virtual machines potentiellement qui sont mis dans un groupe à haute disponibilité, mais vous allez pouvoir, plutôt que de scripter ça de manière classique ressource par ressource, vous allez pouvoir déclarer dans un template cet environnement, et vous allez pouvoir indiquer à Azure de créer un environnement basé sur ce template. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce template, c'est pas juste déclarer des ressources, c'est également déclarer les dépendances qu'on peut avoir entre ces ressources. Ici, par exemple, j'ai le site qui est dépendant de la base de données SQL, qui va même pouvoir récupérer la configuration, la chaîne de connexion, de la base de données SQL pour l'intégrer dans les éléments de configuration de la base de données, etc. Donc c'est pas simplement de la déclaration de ressources, ça va plus loin que ça. Un des avantages également, c'est que c'est idempotent, ces templates sont idempotents. Si vous demandez à Azure de recréer un ressource group à partir d'un template existant, il va toujours avoir le même résultat, quel que soit le nombre de fois où vous allez exécuter ce template. Et vous allez vraiment pouvoir simplifier l'orchestration de la création de vos ressources, même pourquoi pas le retour en arrière, si vous avez besoin de revenir sur un ancien template que vous avez potentiellement également géré via votre contrôleur de source à côté du code source de votre application. On va pouvoir vraiment aller très loin grâce à ces templates. Donc c'est une nouvelle ressource qui vient d'apparaître avec le nouveau portail, avec la notion de ressource groupe, et c'est vraiment le futur au niveau d'Azure sur la création d'environnement. Ce qui est intéressant également, c'est qu'associé à des choses comme Chef ou Puppet qui vont installer des agents sur les machines virtuelles, et vous allez pouvoir créer tout un environnement à partir d'un template sur lequel vous avez potentiellement intégré des agents Chef, Puppet ou PowerShell DSC qui vont eux se charger de configurer les machines virtuelles que vous avez créées grâce à ce template. Donc vous allez pouvoir de A à Z créer et configurer tout un environnement du plus simple au plus complexe. Justement, on va voir quelques exemples. Mais le premier exemple qu'on va faire, c'est d'abord un exemple en PowerShell tout simple. Je vais ouvrir Azure PowerShell et je vais vous montrer comment on va pouvoir créer un site web à partir d'Azure PowerShell. Donc pour ça, j'ai besoin, la première chose que j'ai à faire si je suis dans PowerShell, c'est d'importer le module PowerShell. En l'occurrence, j'ai ouvert Azure PowerShell, qui est une version du host PowerShell avec l'importation qui a déjà été faite pour moi. Je peux le vérifier. Si j'essaye d'importer le module Azure, donc que j'ai téléchargé sur azure.microsoft.com, hein, soit dit en passant, il va m'indiquer que j'importe les différentes commandelettes et les alias. Il m'indique pas que ça a déjà été fait, je pensais qu'il allait me le dire. Il me fait pas d'avertissement, mais c'est pas grave, comme ça on est sûr au moins que ça a été fait. Je vais nettoyer l'écran. La prochaine chose à faire, c'est d'ajouter une référence à mon compte Azure sur lequel j'ai mes différents abonnements. J'ai plusieurs abonnements Azure et j'ai besoin de lui indiquer sur quel compte me connecter. En l'occurrence, c'est mon compte professionnel benjat@microsoft.com. Il va récupérer mes différents abonnements. Si je fais un get-azure subscription, il va me lister mes différents abonnements. Moi, ce que je vais vouloir faire, c'est lui dire utilise cet abonnement spécifique. Bon, je vais copier-coller le nom puisqu'il n'est pas très user-friendly. Voilà. Utilise cet abonnement-là pour toutes les commandes que je vais faire par la suite. En l'occurrence, la prochaine commande que je souhaite exécuter, c'est la création d'un Azure Website. Donc c'est très simple, la commande elle consiste simplement en new-azure website. Je vais lui passer le nom du Azure Website, en l'occurrence Benjat Temp MVA 5 pour être sûr qu'il ne soit pas utilisé. Et à partir de là, je pourrais m'arrêter, mais je vais lui préciser des paramètres optionnels, notamment je vais lui en préciser qu'un seul, je vais lui préciser sur quelle région je veux être hébergé, en l'occurrence toujours Dublin, j'aime beaucoup le data center de Dublin, North Europe. Donc il a besoin de quelques secondes pour créer cette ressource, hein, de la même manière que sur le portail ça prend quelques secondes. Et pendant ce temps, bah justement, on va ouvrir le portail et on va vérifier que cette ressource est bien en cours de création. On va rafraîchir. Voilà, donc j'ai bien confirmation sur ma fenêtre PowerShell que c'est terminé. Donc normalement, si je rafraîchis mon portail sur le web, je vais avoir ce deuxième site qui va être accessible. J'ai bien Benjat Temp MVA5 qui a été créé. Donc là, je le fais en mode interactif, hein, je tape des commandes, j'ai un résultat. Tout ça peut bien entendu être automatisé dans des scripts. C'est tout l'intérêt de PowerShell, hein, on peut faire de manière interactive ou de manière scriptée. Je vais tout de suite supprimer mon site. Comme ça, pendant que j'y pense, ça sera plus pratique. Je l'ai appelé Benjat Temp MVA5, si je ne me trompe pas. Il me demande une confirmation, j'en suis sûr. Et voilà, il va supprimer mon site. Donc ça, c'est la manière de scripter des ressources, comme on le fait déjà depuis quelques années sur Azure. Et je vous ai indiqué, on a une nouvelle notion, qui est cette notion de template, qui existe aujourd'hui. Et je vais vous ouvrir un template, qui est un template qui permet de créer un site web, d'y associer une base de données, et de configurer cette base de données et ce site web pour travailler ensemble. Donc ce template, il est écrit en JSON, il fait quand même pas mal de lignes, j'ai tout rétréci pour l'instant, mais la première chose que je peux noter, c'est qu'il y a un certain nombre de paramètres, site name par exemple, hosting plan name, site location, SKU, qui sont des paramètres qui vont être nécessaires dans la suite du template. Et justement, la suite du template, c'est la définition d'un certain nombre de ressources qui vont être nécessaires pour mon application. Donc la première ressource, elle est de type microsoft.sql/server, c'est mon serveur SQL. La deuxième ressource, pardon, là c'est les propriétés, et en fait on va utiliser les paramètres que j'ai définis dans la partie paramètres. Ce que je voulais vous montrer, c'est la deuxième ressource ici, qui est un paramètre de type database. Une fois que j'ai mon serveur SQL, je vais créer une base de données. Ensuite, je vais créer un hosting plan. Je vais zoomer un petit peu. Je vais créer un hosting plan. Donc ce hosting plan, il est de type web server farm. C'est vraiment la capacité de créer plusieurs sites dans une même entité logique. Et vous comprenez, la suite, ça va être un site, etc., etc. Je vais déclarer l'ensemble de mes ressources avec un certain nombre de propriétés et grâce à un certain nombre de paramètres que je vais avoir en entrée de mon fichier. Donc ça, c'est vraiment le futur de la déclaration de ressources dans Azure. C'est pas une obligation, hein. Vous pouvez tout à fait faire tout ça par le portail, vous pouvez tout à fait faire ça en PowerShell de manière classique, mais ce qui va se voir de plus en plus, c'est de créer ce genre d'environnement grâce à des templates. D'ailleurs, Microsoft nous-mêmes, on sort de plus en plus de templates dans ce nouveau mode. Et par exemple, on a sorti cette nuit, vous pourrez vérifier, hein, j'enregistre cette vidéo le 22 août, donc le 21 août au soir, on a sorti un nouveau template qui consiste à la création d'un environnement SQL Server 2014 Always On. Donc ça a l'air de rien, mais pour information, créer un cluster Always On sur Azure, c'est pas forcément simple. Enfin, créer un cluster Always On de manière générale, c'est pas forcément simple. Pourquoi? Puisque un cluster Always On comporte au minimum 5 machines, si on veut le faire correctement, c'est-à-dire 2 machines pour le contrôleur de domaine, 2 machines pour SQL et un share, ce qu'on va appeler témoin, pour vérifier que les deux machines SQL serveur n'aient pas de problème pour se synchroniser. Donc je vais ouvrir cette fenêtre ici qui est redimensionnée pas vraiment correctement, mais c'est pour vous indiquer que ce template est capable de créer ces 5 machines, va pouvoir créer des availability sets, va pouvoir créer les cloud services et le virtual network qui va bien. Tout ça en fonction d'un certain nombre de paramètres que je vais pouvoir déclarer. Donc ici, je suis dans le nouveau portail, j'ai un template qui est déclaré en JSON comme celui que je vous ai montré, et j'ai des paramètres qui vont pouvoir être spécifiés dans le portail directement, plutôt que... Enfin, grâce au fait qu'il soit dans mon fichier JSON de déclaration de ressources. J'ai bien entendu le nom de ma ressource groupe, le nom des mots de passe et le mot de passe administrateur, les paramètres SQL Server, etc., etc., dans quel data center je veux être stocké, etc. Donc voilà comment on va créer des ressources de plus en plus et comment on vous encourage, vous aussi, à concevoir vos architectures dans Azure plutôt que de créer des ressources de manière unitaire. Pensez à votre infrastructure comme un tout, à un ensemble de services que vous allez pouvoir déclarer plutôt que de créer une à une. Ok, donc avançons un petit peu et parlons maintenant des SLA de disponibilité d'une application. C'est quelque chose qui est très important et qui est souvent négligé. Le SLA de disponibilité d'une application peut être inférieur au SLA des différents composants de cette application. Donc je m'explique, imaginez une application qui utilise une base de données Azure SQL Database, qui utilise Azure Storage et qui utilise deux ou trois machines virtuelles qui sont regroupées dans un groupe à haute disponibilité. Donc chacun de ces services dispose d'un SLA de disponibilité de la part de Microsoft, en l'occurrence 99.9 pour Azure SQL Database et Azure Storage, et 99.95 pour Azure Virtual Machine. Ce qui est important, c'est que le SLA de votre application, finalement le worst case, le cas le plus mauvais, ça va être que l'ensemble des services ayant ces SLA-là tombent en panne, mais pas en même temps. C'est-à-dire que chacun de ces services dispose du maximum des minutes d'indisponibilité potentielle qu'il peut avoir par mois, en l'occurrence 43 minutes dans le cas d'un service à 99.9 et 21 minutes dans le cas d'un service à 99.95, ce qui nous donnerait 108 minutes d'indisponibilité de l'un ou l'autre des composants. Donc si mon application a besoin de ces trois composants pour fonctionner, le pire des cas, c'est que vous avez seulement une disponibilité de 43 200 minutes, pardon, de 43 092 minutes, plutôt que les 43 200 minutes qui composent un mois. Vous avez donc une disponibilité qui est de 99,75% sur votre application, dans le pire des cas. Donc c'est ça ce chiffre-là qui est important quand vous raisonnez au niveau de votre application. Donc si jamais vous promettez plus à vos utilisateurs, ou si jamais ce chiffre ne vous convient pas pour vos utilisateurs, vos prospects, vos clients, il va falloir faire quelque chose. Et en l'occurrence, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en place des mécanismes comme la redondance plutôt que la composition. La redondance va vous permettre de remplacer un service par plusieurs services avec des solutions de repli si jamais un des services ne fonctionne pas. Imaginez que vous ayez un panier dans le sens d'un site e-commerce. Plutôt que de stocker le panier forcément dans Azure SQL Database, bah si Azure SQL Database n'est pas disponible au moment où un achat ou au moment où un client, un prospect remplit son panier, vous pouvez tout à fait imaginer stocker le panier sur Azure Storage ou alors dans le cache distribué. Bref, vous allez combiner, vous allez redonder cette brique de votre infrastructure pour vous assurer que le SLA global de votre application puisse augmenter. Imaginez donc trois services A, B et C qui ont chacun un SLA de 90%. 90% c'est très faible, hein. Rassurez-vous, sur Azure, tous les services ont plus de 99,9% si je ne me trompe pas. En tout cas, il n'y en a aucun qui a 90%, ça c'est sûr. Si vous avez trois services à 90% et que vous les redondez, que vous les mettez en parallèle comme ceci, vous avez un SLA de l'ensemble qui est de 99,9%. Donc ça devient très intéressant. Donc imaginez faire ça avec des services à 99,9, vous avez quelque chose qui tient plutôt bien la route au final. Donc ça, c'est la redondance, très important. Contrairement à la composition, enchaîner les services, comme je vous l'ai montré dans la slide précédente, où là, vous allez perdre en disponibilité. Vous passez de 3 services qui ont 99,9, vous arrivez à 99,7. Donc le calcul de disponibilité, hein, j'ai remis la petite formule, c'est pas très compliqué, vous prenez le temps d'uptime de l'application sur le temps d'uptime potentiel qu'il y aurait eu sur la même période. Donc c'est ce que j'ai fait sur la slide précédente. Donc les recommandations par rapport à tout ça, mais c'est de concevoir des architectures qui sont tolérantes aux pannes. On appelle ça en anglais fail safe, c'est-à-dire que s'il y a un problème, l'utilisateur ne doit pas s'en rendre compte, votre application doit continuer de tourner, potentiellement avec un mode dégradé, peut-être que votre application continuera de fonctionner mais que la fonctionnalité de recherche ne fonctionnera plus, mais au moins vous n'aurez pas un écran noir, un blackout total pour vos utilisateurs. Donc pour réaliser ça, ce qui est important déjà, c'est de découper l'architecture de votre application en différents rôles. Ça, vous êtes un petit peu obligé dans des architectures de type cloud de toute façon, puisqu'on vous invite à utiliser un service spécifique pour la base de données, un service spécifique pour le front-end, un service spécifique pour du back-end, un service spécifique pour l'envoi des emails, etc. Donc ce découpage, il se fait de plus en plus dans les applications modernes grâce à ça. Mais il faut bien garder ça en tête, découper l'ensemble des rôles de votre application de manière la plus fine possible et prévoyez des modes dégradés si tel ou tel service ne fonctionne pas. Bien sûr, évitez les points uniques de défaillance, hein, les SPOF pour Single Point of Failure, ça c'est quelque chose qui était vrai déjà dans les architectures non cloud, c'est d'autant plus vrai dans les architectures cloud. Et gérer les erreurs transientes. Alors les erreurs transientes, qu'est-ce que c'est ? Imaginez un service comme Azure SQL Database. Ce service, vous avez une base de données qui va être répliquée trois fois sur trois serveurs physiques différents. Si jamais il y a un problème sur un des serveurs physiques, automatiquement, un deuxième serveur va prendre le relais et ça va être transparent pour votre application. Alors transparent, pas exactement, pas 100% transparent, pourquoi ? Puisqu'il va y avoir une coupure, une toute petite coupure de quelques centaines de millisecondes, disons, que votre application va potentiellement voir si jamais elle effectue une requête pile à ce moment-là. C'est une des causes d'erreurs dites transientes, c'est-à-dire qui arrivent à un moment donné, mais qui, avec exactement la même requête, quelques millisecondes ou quelques secondes plus tard, n'arriveront pas. Ces erreurs transientes, une cause également potentielle d'erreurs transientes, c'est les mécanismes de throttling. Ces mécanismes de throttling, ils sont en place sur des services qui acceptent tant de requêtes sur telle période de temps. Imaginons un service qui vous autorise à faire 1000 requêtes en une minute. Imaginez que vous avez besoin de 1001 requêtes, vous êtes à la 59e seconde, mais potentiellement le service va vous dire non, reviens plus tard, tu as utilisé tout ton quota. Donc ça sera une erreur transiente dans le sens où le service vous dira pour l'instant ça ne marche pas, mais reviens plus tard, ça marchera. Donc vous devez gérer ce genre d'erreur plutôt qu'à d'afficher une erreur à l'utilisateur ou de faire crasher votre application. Avant de faire ça, en tout cas, la première chose à faire, si vous détectez que c'est une erreur transiente, c'est de recommencer quelques millisecondes plus tard, puis quelques dizaines de millisecondes plus tard, puis quelques centaines de millisecondes plus tard, etc. Donc vous allez mettre en place des mécanismes de retry pattern. Ça peut paraître un petit peu bourrin, mais c'est vraiment un mécanisme qui est tout à fait normal à mettre en place dans ce genre d'architecture quand vous avez potentiellement des erreurs transientes qui peuvent apparaître sur l'une des briques de vos applications. Et ce qui est important également, une fois que vous avez fait ça pour l'ensemble des briques de votre application, donc que vous savez que vous avez prévu des modes dégradés, que vous avez évité les single point of failure, bah c'est d'utiliser vous des services qui ont été conçus de la même manière. Par exemple, les services Azure ont été conçus de cette manière-là. Si on prend le même exemple de Azure SQL Database, le fait que vous ayez trois bases de données sur trois serveurs différents pour votre base de données, bah c'est justement pour gérer ce genre de problème. Si vous prenez Azure Storage, c'est le même principe. On ne stocke pas un fichier ou un objet une fois dans un data center, on va le stocker au minimum trois fois dans un data center. Et au maximum, on peut aller jusqu'à six fois dans deux data centers différents. Donc là, vous évitez les pannes d'un serveur au niveau hardware, vous évitez les pannes d'un data center, et vous allez vraiment être sûr d'avoir un service qui a été conçu avec une architecture qui sera tolérante aux pannes. À vous d'utiliser ce genre de service qui ont été bien conçus à la base et de faire pareil de votre côté. Donc ça c'est vraiment important. Alors une démo rapide, donc c'est très difficile de faire une démo pour ce genre de concept assez générique finalement, mais ce que je veux vous montrer c'est la capacité d'Entity Framework de mettre en place un mécanisme de retry pattern très simple quand vous allez utiliser Azure SQL Database. Donc rappelez-vous, le projet Cache MVA sur lequel j'avais à l'origine une requête via Entity Framework à Azure SQL Database, j'ai rajouté ensuite du cache, mais pour l'instant ça ne nous intéresse pas forcément. J'aimerais rajouter un mécanisme de retry pattern sur les appels à ma base de données. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'Entity Framework, à partir de la version 6, est arrivé avec un élément de configuration qui va vous permettre de lui indiquer « Mets en place un mécanisme de retry pattern avec tel ou tel paramètre ». Donc ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de gérer ça vous-même. Pourquoi ? Parce que le service Entity Framework l'a fait pour vous. Donc je vais créer un élément de configuration. Cet élément de configuration va me permettre de configurer Entity Framework. Il doit dériver pour ça de la classe DB Configuration. La classe DB Configuration appartenant à System.data.entity. Et je vais, lors du constructeur, je vais lui indiquer d'utiliser une Execution Strategy. Donc ça, c'est un terme propre à Entity Framework. Je vais lui dire d'utiliser telle execution strategy, donc celle qui a ce nom-là, system.data.sqlclient, et ça sera une SQL Azure Execution Strategy. Donc une stratégie qui est propre à SQL Azure, c'est l'ancien nom d'Azure SQL Database. Pourquoi propre à Azure SQL Database? C'est parce que l'équipe Entity Framework, dans cette classe, a implémenté l'ensemble des cas qui peuvent se produire dans Azure SQL Database pour les erreurs transientes. Ils savent par exemple qu'il y a cette possibilité d'avoir un changement de serveur qui va générer tel type d'erreur. Et il va donc pouvoir... Alors SQL Azure Execution Strategy... Et automatiquement, il va savoir que c'est une erreur transiente, donc il peut réessayer. Vous avez la possibilité de passer un certain nombre de paramètres, je ne vais pas le faire ici, mais vous avez la possibilité de définir par exemple le max retry count, ou le nombre de fois qu'on va recommencer maximum, et le délai maximum d'attente. Donc ça, je ne vais pas l'exécuter pour l'instant, puisque je crois que ma base de données, je l'ai déprovisionnée, mais c'était pour vous montrer que certains frameworks d'accès à certains services vont vous permettre de configurer des mécanismes de retry pattern de manière vraiment très très simple. Retour au slide, avec un autre mécanisme qu'il est important de comprendre dans des architectures cloud, ce sont les mécanismes asynchrones. En fait, on va essayer de rendre asynchrone les mécanismes qu'on aurait peut-être gardés synchrones on-premise, comme par exemple des tâches pouvant être plus ou moins longues. Imaginez la création d'une facture, par exemple, ou alors l'envoi d'un email avec le protocole SMTP. C'est pas non plus très long, mais ça prend quelques centaines de millisecondes généralement. Imaginez également des tâches qui peuvent nécessiter des services externes qui ne sont pas forcément accessibles tout au long de la journée. Ou des tâches qui nécessitent des ressources supplémentaires, c'est-à-dire qui demandent vraiment beaucoup de CPU, alors que vous préférez avoir sur votre application web les machines qui délivrent les requêtes HTTP, qui utilisent le CPU pour ça, et pas pour générer des factures en PDF par exemple. Et imaginez également des tâches qui ne sont pas forcément urgentes, des choses qui peuvent être faites toutes les nuits plutôt que au moment où l'utilisateur le demande. Donc tout ça, ce sont des tâches qui vont être sorties généralement du front et qui vont, ce que vous allez essayer de faire tourner dans ce qu'on appelle Azure Web Jobs. Azure Web Jobs, c'est la capacité de faire tourner ce genre de tâches que vous allez développer soit en .NET avec des applications console, soit dans tous les autres frameworks qui sont exécutables par Azure Website. Je pense à Python par exemple, qui est très populaire, ou alors à Node.js qui est encore plus populaire en ce moment. Donc le principe c'est quoi? C'est que sur les mêmes machines qui exécutent vos sites, ou alors sur des machines séparées, vous n'êtes pas obligé de les mettre sur les mêmes machines, vous allez faire tourner un certain nombre de web jobs qui vont chacun exécuter un certain nombre de tâches que vous aurez développées. Donc ce qui va être intéressant, c'est bien sûr de pas appeler ces tâches de manière synchrone à partir de votre front, mais de passer par un mécanisme externe qui va vous permettre de rendre ça asynchrone. En l'occurrence, ce mécanisme qu'on va utiliser généralement, c'est les queues Azure. Les queues Azure, c'est à peu près le même principe que Azure Storage Table, Tables, pardon. Vous me pardonnez cette prononciation approximative. Les tables dans Azure Storage, les queues sont un autre service d'Azure Storage qui vous permettront de rendre un certain nombre de tâches asynchrones. Donc imaginez un utilisateur qui a besoin par exemple de générer une facture, il va faire une demande au site web, le site web va envoyer un élément dans une queue Azure, je ne sais pas si vous avez vu rapidement, là il y a une petite animation qui indique qu'un élément a été positionné dans la queue, le site web va dire ok j'ai bien pris en compte ta demande, mais elle sera traitée plus tard finalement. Et un web jobs qui est responsable de la génération de ces factures, celui-ci par exemple, va aller être notifié d'un changement, d'un nouvel élément dans la queue, et va pouvoir traiter cet élément et générer la facture qui sera envoyée par exemple par email à l'utilisateur, ou alors la page sera rafraîchie pour indiquer à l'utilisateur que sa facture est prête, ou ce genre de mécanisme. Donc pour vous montrer ça, je vais utiliser un projet d'exemple qui est disponible sur GitHub. Ce projet d'exemple il a été fait par l'équipe qui est en charge d'Azure Web Jobs le principe c'est quoi? C'est de prendre un certain nombre d'images en entrée et de générer une image qui va composer, enfin une image unique à partir de deux images ou plus. Donc ça j'ai déjà téléchargé le zip et je l'ai ouvert ici. Donc comme vous pouvez le constater, vous avez quatre projets dans cette solution. Le premier projet, c'est un site web que j'ai déjà déployé dans Azure Website, je vais vous le montrer tout de suite. Il est disponible dans mon interface à l'adresse manjat.tempmva pour changer. Et ce projet est vraiment très simple, il me permet d'aller chercher des images. J'ai cherché une première image, je l'upload. Je vais chercher une deuxième image. Une fleur cette fois, je l'upload et il va me proposer d'aller shuffle, d'aller mélanger ces deux images pour en faire une seule. Donc on va aller voir le code de tout ça. La première chose à comprendre c'est que le site web, lui, il est responsable de l'interface mais il n'est pas du tout responsable du traitement de ces images. Les images vont être faites dans ce deuxième projet ici qui s'appelle Image Processor. Et ça c'est une application console qu'on va déployer en tant que web jobs. On va le faire tout de suite, d'ailleurs on va le publier grâce à Visual Studio en tant que web jobs. Bien sûr si vous n'êtes pas dans Visual Studio, que vous faites un projet de type Node.js plutôt ou ce genre de choses, vous allez pouvoir passer par l'interface, par le portail Azure pour uploader votre web jobs, pour le hoster, héberger votre web jobs dans Azure. Il y a différentes façons de faire si vous n'avez pas Visual Studio. L'avantage de Visual Studio c'est qu'il a des jolis assistants ici, donc quand on est en .NET c'est quand même plus sympa. Et vous allez pouvoir indiquer à votre web jobs de tourner soit de manière continue, donc 24 heures sur 24, soit sur un schedule particulier, où vous allez pouvoir dire je veux qu'il tourne une fois ou alors de manière récurrente, soit on demand, c'est-à-dire au moment où je vais lui demander de s'exécuter. Moi, en l'occurrence, je veux qu'il tourne de manière continue, qu'il attende les demandes du front. Donc je vais cliquer sur OK, il va me demander d'aller sélectionner le site sur lequel je veux publier mon web jobs. Il prend quelques secondes pour se connecter à mes différents abonnements Azure et à me retrouver tous mes sites. En l'occurrence, c'est celui-ci. Ben, j'attends PMVA, j'y vais. Et là, il a récupéré les informations, les credentials qui me permettent de publier mon site. Et normalement, dans quelques secondes, la publication sera terminée. Voilà, le site, en l'occurrence, il me dit le site, mais c'est bien le WebJobs qui a été publié. Donc maintenant, je vais pouvoir avoir dans mon interface, ici, dans ma liste des WebJobs associés à mon site benjattemp.mva. J'aurais pu, encore une fois, le déployer sur un autre Azure Website, j'ai choisi d'utiliser le même. J'ai fait sur benjattemp.mva. Pourquoi? Puisque je pars du principe que mon front n'utilise pas toutes les ressources de ma machine, donc autant utiliser la même machine et ne pas repayer pour une machine supplémentaire. Voilà, donc j'ai bien mon WebJobs qui est disponible ici, et j'ai même une interface où je vais pouvoir voir ce qui se passe sur ce WebJobs. Cette interface, elle utilise la partie SCM d'Azure Website. Vous pouvez y accéder en utilisant le nom de votre site, .scm.azurewebsite.net. Donc vous rajoutez finalement SCM entre le nom de votre site et Azure Website, et vous avez une interface qui vous permet de faire un certain nombre de choses, dont voir les WebJobs qui sont en train de s'exécuter. Donc on voit que mon WebJobs ici est en train de s'exécuter. On va pouvoir avoir un peu plus de détails ici avec les logs complets. Donc je vérifie 12h13 alors qu'on m'indique ici 14h14. C'est à peu près ça. Pourquoi à peu près? Il y a 2 heures de différence. Je suis en heure UTC sur Azure, bien entendu. Toutes les machines sont en heure UTC. Je vois également ici l'historique de l'exécution. Pourquoi? Puisque j'avais un WebJobs qui portait le même nom il y a encore quelques minutes où j'ai fait mes tests. Donc maintenant que le WebJobs est en train de tourner, je vais pouvoir appuyer sur le bouton Shuffle. Le site a répondu immédiatement en disant que l'image était en cours de création, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Un élément a été envoyé dans une queue et le WebJobs attend les messages de cette queue pour pouvoir effectuer l'opération de redimensionnement avant de pouvoir renvoyer l'image au front. Donc cela, on va pouvoir le constater ici en rafraîchissant ma fenêtre de log. Et on voit ici que mon job est en train de s'exécuter, c'est-à-dire que le code, la fonction finalement createShuffle est en train de s'exécuter dans mon jobs, et il me demande ici de rafraîchir l'interface, et je vois que un nouvel élément a été processé. Si je retourne sur mon site web, l'image a été affichée à l'utilisateur en parallèle. Donc j'ai vraiment un mécanisme ici asynchrone qui m'a permis d'avoir une interface très fluide pour l'utilisateur et l'utilisation de potentiellement de ressources séparées pour faire quelque chose qui n'avait pas vocation à être fait sur un front. Dernière bonne pratique que je veux vous indiquer, c'est l'importance de monitorer un maximum vos applications hébergées sur des environnements de type cloud. Il est devenu inimaginable aujourd'hui d'apprendre un problème sur une application par la voix d'un utilisateur ou même pire d'un prospect ou d'un client. Il est vraiment nécessaire de mettre en place des mécanismes qui vous permettent d'avoir l'information le plus tôt possible et de manière la plus détaillée possible. Savoir qu'il y a une erreur, c'est bien, mais savoir ce qui s'est passé, c'est quand même mieux. Donc il y a un certain nombre de solutions qui existent, il y a des acteurs historiques, c'est pour ça qu'ici j'ai System Center, j'ai Nagios, et il y a des nouveaux acteurs qui sont, comme on dit, born in the cloud, qui ont été réalisés avec des technologies cloud, pour des technologies cloud. Je pense notamment à New Relic, je pense à AppDynamics, je pense à Stackify, etc. Donc vous avez l'embarras du choix, et en l'occurrence au milieu je vous ai mis Visual Studio Online et notamment son service Application Insight qui est fait par Microsoft et qui a l'avantage d'être très bien intégré notamment aux fonctionnalités de Visual Studio, comme par exemple les tests de charge de Visual Studio Ultimate, ou aux autres fonctionnalités de Visual Studio Online, comme le contrôle de source. Donc vous allez pouvoir, si vous avez un problème sur votre application, aller jusqu'à la ligne de code concernée, savoir par qui elle a été modifiée en dernier, avoir un fichier IntelliTrace qui va être généré automatiquement. Bref, vraiment toute une expérience intégrée. Si vous utilisez Visual Studio, si vous faites du .NET, je pense que ça peut être une bonne piste à explorer comme solution de monitoring, Application Insight de Visual Studio Online. Dans les autres bonnes pratiques à respecter au niveau monitoring, c'est le fait de loguer un maximum d'informations. Donc sur les services cloud, vous ne pouvez pas vous RDP la plupart du temps sur les machines, vous ne pouvez pas ouvrir de session à distance sur les machines qui exécutent vos services. La plupart du temps, vous n'avez pas la main sur Windows par exemple. À part sur les virtual machines, si vous prenez Azure Website par exemple, vous n'avez pas la main sur Windows. Si vous prenez Azure SQL Database, vous n'avez pas la main sur Windows. Donc il est impensable d'aller sur le front en RDP et d'aller voir l'Event Viewer ou alors les logs IIS. Si vous voulez faire tout ça, il faut vous assurer que toutes ces informations essentielles sont loguées et sont loguées de manière le plus verbeuse possible pour que vous ayez l'ensemble des informations en cas de problème. Donc le stockage est vraiment vraiment peu onéreux sur Azure ou sur le cloud en général. Par exemple, pour 3 euros, vous avez 50 gigas facilement de stockage. Donc il ne faut pas hésiter à stocker un maximum de choses, à être le plus verbeux possible. Par exemple, ne stockez pas simplement l'information qu'il y a eu un problème. Stockez le type d'exception, les détails de l'exception, un maximum de contexte sur cette exception, plutôt que le nom de l'exception seulement, qui ne sera généralement pas suffisant. Et stocker tout ça même en production, même en temps normal. N'hésitez pas à stocker même le temps d'appel à un service externe pour à chaque fois qu'un service externe est appelé. Pourquoi? Puisque ça peut être une bonne piste également s'il y a un problème. Les services externes qui mettent un peu trop de temps parfois peuvent être la cause de réactions en chaîne qui vont impacter de manière très néfaste votre service. Bref, loguez un maximum, activez ces logs en production, soyez très verbeux. Très courte démonstration avec un projet sur lequel vous vous rappelez peut-être, c'est le projet que j'avais appelé TempMVA à l'époque, où j'avais une page qui me permettait d'aller stocker un élément en blob et qui me permettait d'aller stocker un objet en table dans le Azure Table Storage. Donc ce site, c'est un site en .NET, je vais pouvoir par un simple clic ajouter Application Insight. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir, grâce au fait de l'intégration de Visual Studio et d'Application Insight, à partir de Visual Studio, je vais pouvoir me connecter à mon compte Azure, sur lequel, et à mon compte Visual Studio Online en l'occurrence, et je vais pouvoir créer une nouvelle ressource Application Insight. Mon projet va être, à partir de maintenant, associé à un tenant Application Insight sur Visual Studio Online. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des compteurs de performance vont être mis en place, un certain nombre de choses vont être faites sur mon application pour récolter des informations qui seront disponibles dans l'interface Application Insight. Ça prend quelques dizaines de secondes, il télécharge un package Nugget qui est installé à mon application. Voilà, on voit la liste des références ici qui vient de s'actualiser avec les nouvelles références propres à Application Insight. J'ai un élément de configuration aussi qui est ajouté, applicationinsight.config, qui va configurer les différentes métriques que je souhaite récolter. On a vu très rapidement la partie script qui s'est étendue. J'ai un script de récolte de données qui a été créé également. Et tout ça, voilà, ça vient d'être créé maintenant, va me permettre de récolter des informations que je vais pouvoir visualiser dans mon interface de gestion. Donc là, je viens de faire un clic droit sur mon projet. Cette fois, plutôt que d'ajouter Application Insight, j'ai Open Application Insight qui va m'ouvrir le portail Application Insight qui est maintenant intégré dans le nouveau portail Azure. Donc, ça m'a ouvert ça sur l'autre écran. Je l'amène tout de suite. Donc sur mon nouveau portail Azure ici, j'ai bien un élément Application Insight qui est en train de se charger. et qui va m'indiquer, ben, dès que j'aurai mis mon application en production, puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc c'est pour ça que ces compteurs sont vides, c'est des graphes exemples. Je vais avoir par exemple le temps de réponse moyen, le nombre de requêtes bien entendu, je vais avoir la possibilité de créer des web tests, je vais avoir la possibilité de voir les requêtes qui sont les plus lentes et d'aller vraiment aller plus loin dans les détails pour aller voir quelle requête, mais quelle est la trace de l'exécution de cette requête. Je vais aller voir les requêtes qui ont eu un problème, le nombre de sessions, le nombre de browsers, etc., etc. Donc un paquet d'informations sur mon application qui vont me permettre de savoir s'il y a des problèmes, comment les utilisateurs utilisent l'application, bref, sur quoi je vais devoir travailler pour améliorer mon application. Retour au slide pour vous indiquer que nous sommes venus à bout de ce cours MVA qui vous a permis, je l'espère, de savoir un maximum de choses, d'avoir les bases en tout cas pour déployer votre application web sur Microsoft Azure. On a vu comment utiliser le PaaS Azure Website, on a vu comment utiliser le IaaS Azure Virtual Machine, comment combiner tout ça ensemble avec des services de stockage de données, Azure Table, Azure Q, Azure Blob, SQL Database, l'ensemble des services de l'Azure Store, etc. On a vu des mécanismes de caching, on a vu également un certain nombre de bonnes pratiques que je vous conseille de suivre pour toute architecture web hébergée sur le cloud. C'est important si vous voulez pouvoir tenir la charge, si vous voulez pouvoir avoir une disponibilité maximum, si vous voulez pouvoir avoir le maximum d'informations sur l'utilisation qui est faite de votre application. Mettez en place ces bonnes pratiques. Donc j'espère que ce cours vous a été utile. N'hésitez pas à tester tout ça par vous-même. Je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais au cas où, vous avez la possibilité d'ouvrir des comptes gratuits sur Azure via votre abonnement MSDN si vous en avez un, via Bizpark, le programme Bizpark si vous êtes une startup, ou via la version d'essai. Donc n'hésitez pas, ça vous donne accès à pas mal de ressources. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain cours sur Azure. J'espère que ça vous a plu et profitez bien de toutes ces connaissances pour déployer vos applications web dans Microsoft Azure.